Le FLNKS s'exprime à l'issue des discussions bilatérales à Paris. Pour lui, le seul compromis acceptable serait une souveraineté partagée à condition qu'elle soit transitoire. Le tribunal administratif dresse le bilan de son activité 2024. L'an dernier, il s'est prononcé sur 660 requêtes. C'est l'un des sujets qui inquiète les parents pour la rentrée scolaire, les prix de la cantine. Nous en parlerons dans nos pages spéciales rentrée. En métropole, la possible nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel fait grincer des dents, notamment au Rassemblement national et à la France insoumise. L'enquête avance sur la mort de la petite Louise à Épinay-sur-Orge. 4 personnes sont en garde à vue, dont le principal suspect qui habite à une centaine de mètres de sa victime. En football, les barrages de la Ligue des Champions ce matin. Après sa victoire 3-0 à Brest, le PSG a fait un grand pas vers la qualification avant le match retour la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La délégation UC-FLNKS dresse donc le bilan d'une semaine de discussions bilatérales. Elle s'est exprimée depuis l'Assemblée nationale dans la salle dénommée Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, en présence d'André Chassaigne, le député communiste, président du groupe Gauche démocrate et républicaine, et du sénateur Robert Rowy, Elisabeth Noir.
La délégation UC-FLNKS qui ne s'était pas exprimée pendant toute la séquence des discussions bilatérales, mais elle voulait faire le bilan de ses entretiens avec Manuel Valls avant de rentrer en Nouvelle-Calédonie. Pour la circonstance, le député Manuel Tjibaou, qui conduit cette délégation, était entouré de recommitants d'Alozio Sacco et d'Omeyra Neslin. Il affirme que le FLNKS a renoué le dialogue sans a priori à l'égard du ministre des Outre-mer, qui, comme Premier ministre, s'était occupé du dossier calédonien. Mais pour Manuel Tjibaou, le processus de décolonisation n'est pas achevé. C'est la mission de l'État. Un État qu'il veut acteur, mais impartial.
Je pense que c'était important de se placer en tant que partenaire dans la discussion et qu'après avoir subi les différents formats qui ont été imposés par les gouvernements successifs, aujourd'hui c'était la volonté affichée de clarifier le postulat de discussion dans la mesure où ces formats ils ont entraîné aussi une incompréhension sur la volonté de l'État d'inscrire la trajectoire et on a rappelé la position qu'on perçoit nous partielle de l'État. Je pense que c'est aussi le gage de l'expérience du passé qui fait qu'on se dit aujourd'hui il faut que l'État revienne dans son rôle d'acteur impartial dans le suivi du processus de décolonisation. Et pour ça, il y a nécessité de clarifier les postures et puis de s'avancer dans la discussion. Notre pays ne peut plus attendre.
Cette conférence de presse intervient quelques jours avant la visite de Manuel Valls. Le FLNKS répète qu'il souhaite que les discussions se fassent à Nouméa, mais pour lui, le seul compromis acceptable serait une souveraineté partagée à condition qu'elle soit transitoire.
Quand on parle de compromis, si on s'inscrit dans un cadre de décolonisation, ça voudrait dire qu'on demande à l'État d'accepter qu'il choisisse pour le mouvement de libération les modalités sous lesquelles il recouvre sa souveraineté. Nous, on dit qu'on est sur la phase qui est celle de la négociation. On a entendu souveraineté partagée. Pour nous, ça ne peut être qu'une phase transitoire. C'est là où on demande à l'État d'assumer ses responsabilités. On n'a pas changé de discours. On est en train de redécouvrir qu'on est indépendantiste. Quand on parle de compromis, c'est cette trajectoire-là que nous, on a engagée. On n'a pas signé pour autre chose. Donc si aujourd'hui, on doit négocier, sur quelle durée cette transition, elle se fait? Et après, on statue comme on a statué en 98 avec un vote, un scrutin d'autodétermination.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert, la délégation UCFLNKS, va maintenant revenir en Nouvelle-Calédonie et rendre compte de ces discussions bilatérales au bureau politique avant de statuer sur la suite à donner aux échanges avec l'État. Rappelons que parmi ces revendications, il y a la participation aux discussions de Christian Théin qui est toujours incarcéré à Mulhouse.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Selon vous, est-ce plutôt un bon signe que Manuel Valls passe 8 jours en Nouvelle-Calédonie parce qu'il veut consacrer du temps aux discussions? Si vous pensez que la durée de ce séjour est plutôt un bon signe, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. Alors qu'un sommet sur l'intelligence artificielle se déroule actuellement à Paris, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que l'IA est surtout un danger. Ils ne sont que 13% à y voir surtout une opportunité. La situation météo s'améliore sur le territoire. La dépression tropicale faible s'éloigne progressivement par le sud de la Grande Terre. et le mauvais temps s'en va avec elle, Léana Colombo.
Ce qui ne signifie pas pour autant le retour du soleil sur tout le territoire. Pour ça, il faudra attendre encore un peu. Le ciel restera couvert sur une bonne partie de la Calédonie aujourd'hui, selon Météo France Nouvelle-Calédonie, qui prévoit toujours un peu de pluie et de vent par endroit. Les communes du Grand Nouméa et l'île des Pins sont d'ailleurs en vigilance jaune vent violent. Écoutez les précisions de Virgile Cavarero, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Les fortes pluies, c'est terminé. Il y a juste quelques averses faibles qui vont remonter maintenant sur la façade ouest, sur la côte ouest et l'île des Pins dans la journée et la nuit prochaine, mais rien de méchant. Les pluies n'ont rien à voir avec ce qu'on a eu jusqu'à présent. Le vent va souffler de nord-ouest aujourd'hui. C'est sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins qui sera le plus fort et mollir progressivement dans la journée. C'est possible qu'il y ait encore une petite dépression qui se forme et qui vienne fin de semaine, vendredi, samedi. C'est encore assez incertain, c'est un peu trop pour qu'on puisse affirmer.
En attendant cette potentielle quatrième dépression, certaines communes subissent encore les conséquences des intempéries d'hier. Dumbéa annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre du parc provincial de la Dumbéa et du parc Fayard. À la fois, plusieurs débris et arbres obstruent plusieurs ponts de la commune. Les équipes techniques devraient intervenir une fois le niveau de l'eau redescendu. Côté transport, le Béticho n'a pas encore annoncé la reprise des rotations et attend de voir l'évolution de la météo avant de se prononcer. En revanche, une desserte du Cibrise sera bien organisé demain entre Bélep et Koumac. Notez enfin que tous les trajets prévus aujourd'hui en bus rail sont annulés.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h36.
Une activité en hausse pour le tribunal administratif. Son président Hubert Delassalle dressait le bilan de l'année 2024 de la juridiction ce matin, Nicolas Legrand.
Oui, l'année dernière, plusieurs dossiers ont fait la une de l'actualité, notamment les demandes des cadres de la CCAT qui contestaient leur assignation à résidence lors de l'état d'urgence, la question de l'aide médicale en province sud ou encore la présence des deux drapeaux sur les permis de conduire. Des affaires médiatiques, mais qui ne représentent pas la majorité de ce qui est traité par cette juridiction, qui fait face à une augmentation constante de son volume d'affaires. Mais malgré tout, elle continue de rendre ses décisions dans des délais très satisfaisants pour Hubert Delassalle, qui a pris ses fonctions de président en novembre dernier.
On a atteint un record historique dans le nombre d'affaires enregistrées. Donc, nous sommes saisis avec 660, plus près de 5% d'augmentation. Et donc, on est sur une tendance haussière que connaissent tous les tribunaux administratifs. Alors, les affaires dont nous sommes saisis concernent principalement, pour les deux tiers, disons, les fonctionnaires, les agents publics, et en particulier pour des problèmes de primes et de rémunération. Nous avons un certain nombre d'affaires de l'ordre de 90 qui mettent en cause toujours les conditions de détention au centre pénitentiaire et un nombre équivalent qui ont trait à la matière sociale, mais qui ont largement été liés à la réforme de l'aide médicale avec la réforme du ticket modérateur par la province sud. Nous avons le meilleur délai moyen constaté, c'est-à-dire le temps qu'on met à juger les affaires, nous sommes saisis, puisque c'est le plus bas de France, avec un peu plus de 5 mois pour juger les affaires. C'est un délai particulièrement satisfaisant et rapide pour la plus grande satisfaction des justiciables.
Et cette tendance haussière du nombre de requêtes déposées devant le tribunal administratif devrait se confirmer en 2025 dans un contexte post-émeute de 2024.
Sans aucun doute, c'est une tendance structurelle que connaissent tous les tribunaux administratifs et je pense que 2025 sera particulièrement soutenu pour le tribunal dans son activité. Voilà, ça sera. Je pense que nous sommes sur une tendance au-delà de 600 requêtes qui est bien établie désormais. On va être a priori saisi d'un nombre à déterminer encore de requêtes fait par des assureurs, mais aussi par des particuliers, mettant en cause potentiellement la responsabilité de l'État lors des émeutes de 2024. Voilà, les assureurs ayant indemnisé des entreprises, notamment, et se retournant devant nous pour obtenir les sommes qu'elles ont pu verser à leurs assurés.
Et j'ajoute par ailleurs que le tribunal administratif siégera à Wallis en février pour examiner une quinzaine d'affaires.
Il est 11h39, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et notamment notre page spéciale rentrée scolaire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Marilyn D'Arcangelo, le maire de Païta, était notre invité ce matin à 7h30. Il s'agissait notamment d'évoquer la rentrée scolaire dans la commune, on va y revenir dans un instant, mais aussi au lendemain de la réunion du conseil municipal, de parler du débat d'orientation budgétaire qui s'est donc tenu hier soir. Sans surprise, c'est un budget très impacté par les conséquences des émeutes du mois de mai qui a été présenté aux élus, nous a dit le maire de Païta.
Il a fallu expliquer une baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie de 25%, ce qui représente pour la commune environ 800 millions. Qui dit baisse de recettes dit forcément baisse de fonctionnement. J'ai une priorité, c'est la sécurité de la commune, donc nos sapeurs-pompiers, nos gardes champêtres restent la priorité sur la commune. La commune souffre encore beaucoup de ce qui s'est passé pendant les émeutes et rien n'est encore revenu à la normale. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Nous attendons les aides de l'État avec impatience et en espérant qu'elles seront à la hauteur de nos attentes, parce que nous avons environ 1 milliard de dégâts concernant surtout les bâtiments communaux. Une partie de la mairie a été détruite, une école, le centre de première intervention de secours de Tontouta, les bâtiments de la police municipale, des bâtiments importants qui ont été touchés, impactés, détruits. Et là aussi, nos agents font preuve de beaucoup de patience parce que finalement, ils travaillent dans des espaces très réduits les uns sur les autres. Franchement, ils ne travaillent pas dans des conditions idéales. Mais malgré tout, ils sont là tous les jours.
Marilyn D'Arcangelo a également été interrogée sur la rentrée scolaire qui se prépare. Elle aura lieu lundi prochain. Rentrée à Païta qui se fera dans d'assez bonnes conditions, a-t-elle tenu à souligner.
La commune a 11 écoles. Les 11 écoles sont prêtes à accueillir les élèves. Bon, il reste quelques menus travaux, mais comme tous les ans, j'ai envie de dire, hein, nous attendons environ 2200 élèves. Nous sommes la commune de l'agglo qui avons perdu le moins d'élèves. À peu près 170.
Et malgré cette petite baisse d'effectifs, vous avez quand même des réajustements assez conséquents liés aux dégâts ce coup-ci
voilà,
dans une
alors,
école.
L'école notamment qui a été brûlée ne pourra recevoir que dans 8 classes au lieu de 13. Et pour cette école, c'est l'école Jean-Baptiste Gustin. Je voudrais remercier, mais vraiment du fond du cœur, les parents d'élèves, sans qui on n'aurait pas pu réouvrir cette école. Parce que dès le jour de l'incendie, ils ont pris en charge le déménagement de l'école, la surveillance de l'école. Et ils ont pris également en charge la déconstruction, le dégagement de tout ce qui avait été brûlé. Grâce à eux, l'école aujourd'hui est opérationnelle et pourra accueillir les enfants dans les 8 classes qui n'ont pas été touchées.
Marilyn D'Arcangelo, maire de Païta, invitée du matin sur RRB, interrogée par Nicolas Legrand. Une interview à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. La rentrée, on continue évidemment avec nos pages spéciales.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée à prix fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5 900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1 500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Alors, qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée des services périscolaires et notamment des cantines. Quels tarifs sont appliqués cette année et quels repas vont être servis aux enfants, Léana Colombo?
Alors, malheureusement, cette année, pas de recette miracle. En raison de la situation économique actuelle, certaines municipalités se voient dans l'obligation d'augmenter leurs tarifs. À Nouméa, par exemple, le prix du repas sera en hausse de 150 francs par enfant pour atteindre un forfait journalier de 1150 francs. Les familles payeront désormais 154 100 francs l'année pour les non-boursiers et 33 500 francs pour les boursiers. Un nouveau prix qui englobe de nombreuses prestations, précise Olivier Rochard, directeur de la Caisse des écoles de Nouméa.
Dans les 1150 francs, vous englobez un coût qui est à destination du prestataire, hein, de cantine, bien sûr, pour la livraison des repas, en liaison froide, maintenant aussi toute la gestion des déchets. On a le lavage vaisselle, le ramassage, hein, un petit peu, et le recyclage des déchets. Vous avez aussi une partie quand même très importante en termes de dépenses qui concerne la charge du personnel, hein. Ce personnel-là possède bien sûr la livraison des repas, hein, mais aussi au nettoyage, à l'entretien des cantines. Il faut aussi 1h30 quand même d'encadrement des enfants, hein, pour qu'ils puissent manger dans un cadre serein. On a effectivement tout ce qui va se concerner les assurances, tout ce qui va nous concerner, nous, pour ce qui est facturation en ligne. Donc, on a aussi des coûts qui sont répercutés un petit peu sur une gestion administrative, une gestion comptable. Tout ceci, voilà, a un coût quand même assez important, effectivement. Et aujourd'hui, cette hausse, elle est nécessaire pour qu'on puisse absorber au niveau de la Caisse des écoles ce coût de revient qui est quand même de 1371 francs à la base.
Au Mont d'Or, malgré la crise financière, la commune a fait le choix de ne pas augmenter le prix des prestations cette année afin d'éviter un impact budgétaire trop important pour les familles. Le tarif de la cantine reste donc à 945 francs par repas pour les enfants non boursiers. D'autres familles bénéficient également de coûts réduits, explique Jérôme Frigeni, directeur de la Caisse des écoles du Mont d'Or.
Le tarif de la cantine est même un petit peu inférieur à ce que les parents payaient l'année dernière pour les tarifs normaux. Pour ce qui est des tarifs boursiers, c'est encore en cours de discussion. On n'a pas encore établi la grille de tarifs boursiers. Ce sera fait d'ici la fin du mois. Cette baisse en fait de tarifs normal, c'est que cette année, on a un petit peu moins de jours de cantine que l'année dernière. On est sur 134 jours cette année contre 137 l'année dernière. Et puis par le fait surtout qu'on a fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs cette année. Donc on est resté à 945 francs.
Même si le nombre réel de demi-pensionnaires ne sera connu qu'après la rentrée scolaire, Dumbea estime qu'environ 1700 élèves sont inscrits au service de cantine cette année contre 2300 en 2024. À Nouméa, on compte 4000 élèves alors que l'année dernière, ils étaient 5800 inscrits. Une tendance à la baisse qui se confirme aussi au Mont d'Or, mais pas à Païta. Au contraire, plus d'élèves prendront leur déjeuner dans les cantines cette année, signale Marine D'Arcangelo, maire de Païta.
Hier, on avait 900 élèves inscrits dans les cantines, mais c'est un petit peu le même scénario chaque année, bien que on ait, par rapport à l'année passée, on a 100 élèves de plus que l'an passé, à aujourd'hui. Donc, les inscriptions continuent. Et comme tous les ans, forcément, la semaine prochaine, on va avoir une avalanche de demandes d'inscription, sachant que dans les écoles de Païta, on a entre 80 et 90 % des enfants qui déjeunent à la cantine. L'important pour moi, c'est que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse déjeuner et qu'il y ait pas de soucis majeurs.
Les communes sont également confrontées à une autre problématique, celle des retards de paiement. Dumbea ne fait pas exception à la règle et a durci ses conditions de réinscription tant que tout n'était pas régularisé. Les explications de Pierre Mestre, président de la Caisse des écoles de Dumbea.
2024 était une année particulière, on a dû être obligé de faire un gros travail sur les impayés de manière à avoir de la trésorerie pour pouvoir payer nos salaires, payer nos prestataires et assurer une continuité de service. En gros, un enfant qui n'a pas payé son mois de février, on lui laisse jusqu'au 30 avril. Il n'a pas réglé, et bien au 1er mai, il ne sera plus inscrit. Ça permet aussi de limiter l'hémorragie chez certaines familles qui cumulent tous les mois des impayés, des impayés, des impayés. On préfère qu'ils régularisent leur situation avant de les réinscrire. Après, on a des impayés qui remontent à 2013, qui s'étalent sur plusieurs années. Donc là, si je vois depuis août l'année dernière, on a réduit à peu près de 39 millions nos impayés. Il en reste encore près de 10 millions d'impayés sur 2024. Et après, il y a des années comme 2023-2022 où les impayés sont beaucoup plus importants qu'on va essayer de réguler au fur et à mesure de manière à pouvoir assurer le paiement des salaires et des prestations.
Et comment parler des cantines sans parler des repas? Au Mont d'Or, c'est la Castrolette qui s'occupe de fournir les déjeuners. Newrest a à sa charge les autres communes du Grand Nouméa. Antoine Brouillet, directeur général chez Newrest Nouvelle-Calédonie, prévoit de servir entre 8500 et 9000 repas pour ce mois de février. Des menus élaborés avec soin, explique-t-il.
Cette année, on va continuer les efforts qu'on a réalisés, notamment sur les produits locaux. Notre objectif, c'est d'être à 55% à la fin de l'année. C'est un vrai challenge compte tenu des difficultés que rencontrent notamment les agriculteurs locaux. C'est extrêmement important de s'adapter au goût des Calédoniens. C'est comme ça que les enfants finissent leur assiette. On travaille notamment avec le chef Alphonse Cotzé régulièrement pour sélectionner des recettes et des produits qui plaisent. Et je pense que ça fait une partie de la démarche, des moyens qu'on met en œuvre pour satisfaire les enfants et puis qu'ils aient le sentiment de manger les produits de la maison, un peu comme à la maison.
Quel sera le menu de la rentrée scolaire?
Lundi, les enfants mangeront une petite salade d'haricots verts maïs avec une vinaigrette maison. Et ensuite, ce sera poulet teriyaki servi avec des pâtes et en dessert un flan au chocolat. Normalement, ça me l'équipe. Là.
Et à noter qu'il est possible d'inscrire les enfants au service de cantine tout au long de l'année. Il faut pour cela se rapprocher du service de gestion de la commune. Les élèves pourront ensuite accéder à la cantine au plus tôt 72 heures après l'inscription.
Merci Léana. Et pour la rentrée scolaire, les parents doivent se procurer les livres scolaires et les tenues. Au lycée Jules Garnier, l'association des parents d'élèves de l'établissement et l'UGPE sont mobilisés à cet effet, comme chaque année. Mais depuis lundi, constate Margaret Sandre, la présidente de l'APE du lycée Jules Garnier, les parents sont beaucoup moins nombreux que les années précédentes.
Pour cette rentrée scolaire 2025, on voit qu'il y a un grand changement par rapport à l'année dernière. Très peu de parents sont venus et je constate, suite aux émeutes, que les parents ont très peu de moyens. Donc ils ont du mal à sortir 10 000 francs pour des manuels scolaires et en plus 1000 francs pour un t-shirt de sport. Ça veut dire que des fois, ils se retrouvent à choisir entre prendre des manuels scolaires pour leur enfant ou prendre un t-shirt de sport. Comparé à l'année dernière, on en a très peu qui sont venus.
Oui, même s'ils sont donc moins nombreux que les années précédentes, les parents d'élèves apprécient de pouvoir trouver sur place tous ceux dont ils ont besoin.
Comme toutes les rentrées scolaires, c'est beaucoup d'attentes et de la patience. Je suis venue inscrire mon grand en seconde. C'est le classique. C'est
là, je suis venue chercher les t-shirts et tout ce qui est libre.
C'est pratique d'avoir tout ça mis
à disposition. Ah oui, c'est pratique. En tant que maman, le plus pratique, c'est surtout tout ce qui est tenue scolaire. Toutes les fournitures, les tenues, vous n'avez pas à courir, chercher tout ce qu'il y a, tout le nécessaire pour une rentrée scolaire. Tout est sur place, tout est bien organisé. Vous faites le tour, on vous dit là-bas, 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 comme des petits moutons.
Alors, comment ça se prépare la rentrée?
Comme toutes les autres, juste un peu le stress quand que ça arrive.
Qu'est-ce que vous êtes venu chercher?
Les fournitures scolaires, comme tous les ans depuis la sixième. Là, il y a mes livres de seconde de l'année. Et puis, je viens d'y mettre mes deux de mes tricots. C'est super pratique, au moins pour la tenue. Tu es sûr de ne pas te faire moquer pour le moindre détail et subir au fur et à mesure de l'harcèlement.
Pour mon fils, oui. Première ERA. Il était à Pétro en menuiserie. Et puis là, il va intégrer une première agencement bois.
D'avoir tout sur place comme ça, ça vous arrange?
Ah bah oui, les fournitures scolaires, et puis après, il faut que j'aille acheter son pack obligatoire pro avec les EPI, tout ça. Là. C'est confortable, hein. Surtout qu'on a plein de démarches à faire à la rentrée, donc s'il n'y avait pas ça, on passerait des heures à courir à droite et à gauche. Ouais. C'est très pratique.
Des propos recueillis par Kelinda Boiscou. Et puis dans cette actualité rentrée scolaire, notez que le collectif Urgence Sociale dénonce les mesures prises en province sud pour durcir les règles d'accès aux aides et aux services publics, notamment dans le cadre de la rentrée scolaire. Ce collectif est composé notamment de l'UGPE, de représentants de partis politiques indépendantistes, de syndicats et de représentants des associations des quartiers populaires. Jean-François Toutiquion est le secrétaire de l'UGPE.
On veut signaler bien sûr les problèmes que rencontrent les familles, et notamment les familles de milieux populaires, pour cette rentrée scolaire, avec quand même des économies extrêmement importantes. Près de 180 millions économisés en province sud sur les bourses. C'est vraiment trop important. À la fois les bourses d'internat, les bourses de demi-pension, les bourses d'externe, tout y passe quoi. Et donc on le voit bien, nous, des familles viennent nous voir. Jusqu'à présent, elles avaient la bourse, et là, tout à coup, on leur coupe la bourse. Ça va impacter des milliers de familles. Après, il y a aussi, bien sûr, les premières inscriptions en maternelle. Là aussi, on ne comprend pas que le droit à l'éducation ne soit pas respecté. Pour nous, c'est une façon de punir ces quartiers qui se sont révoltés à partir du 13 mai suite au projet de dégel du corps électoral.
Un sujet dont nous reparlerons ce soir dans nos pages spéciales rentrée scolaire, puisque c'est Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud en charge de l'enseignement, qui sera notre invité. Le collectif Urgence Sociale annonce, lui, une mobilisation demain devant le Haut Commissariat de 8h à 15h.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Et avant de passer à l'actualité en métropole, je vous rappelle ce rendez-vous hebdomadaire nouveau. À partir d'aujourd'hui, le marché Broussard de Lycos sera ouvert cet après-midi de 13h à 17h. Les visiteurs pourront retrouver une partie des producteurs habituellement présents sous les halles de Nouméa. Pour la Chambre d'agriculture et de la pêche qui organise ce marché, c'est une occasion supplémentaire de favoriser les circuits courts alors que près de 3000 visiteurs partent chaque semaine à la recherche de fruits, légumes, poissons frais et autres denrées locales. Un marché Broussard ouvert à Ducos, donc à partir de cette semaine, le mercredi de 13h à 17h. Une pause et on parle dans un instant de l'actualité en métropole.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un bijou Créator. Des nouveautés, des promos, c'est chez Créator. Trois adresses, Créator Alma, 7e kilomètre et Païta. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateurs, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gerbolino à Magenta, 28 28 33.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et la possible nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel fait grincer quelques dents. C'est le candidat proposé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est l'un des... Richard Ferrand est l'un de ses premiers soutiens dans son ascension politique. Mais à droite comme à gauche, on s'inquiète d'une anomalie démocratique. Les explications d'Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Certains opposants d'Emmanuel Macron craignent des renvois d'ascenseur de la part de Richard Ferrand s'il devient président du Conseil constitutionnel. Marine Le Pen, la première, dénonce une nomination politique.
Je n'approuve pas la dérive qui consiste à systématiquement nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Voilà. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique, et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité.
L'ancienne candidate à la présidentielle est personnellement impactée par cette décision, car le Conseil constitutionnel doit trancher sur la possibilité ou non de rendre une inéligibilité immédiate, même en cas d'appel. C'est peut-être le cas de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants européens. Plus largement, les sages pourront entraver l'action politique du prochain président de la République, notamment sur l'immigration ou l'usage du référendum. Alors Jean-Luc Mélenchon et tout le nouveau Front populaire s'opposent eux aussi à la nomination de Richard Ferrand. Mais sauf coup de théâtre, les macronistes et les républicains majoritaires au sein de la commission des lois devraient valider cette nomination.
Oui, rappelons que pour bloquer la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, il faudrait le vote de 3/5 des membres des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vote prévu après l'audition de Richard Ferrand le 19 février prochain. L'actualité judiciaire avec l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, assassinée dans un bois près de son collège dans l'Essonne. Enquête qui s'est accélérée puisque 4 personnes sont désormais en garde à vue, dont le principal suspect, Caroline Baudry.
Owen L., âgé de 23 ans, a commencé à reconnaître son implication dans le meurtre lors de son audition. Son visage avait été identifié par un voisin sur les images de vidéosurveillance. On y voit un homme coiffé d'une casquette, vêtu d'une doudoune noire, suivre Louise en direction du bois, vendredi avant sa disparition. Lors de son arrestation, il présentait des griffures sur les mains. Sous les ongles de Louise, son ADN a été retrouvé. Le jeune homme avait été d'abord entendu comme témoin dans l'affaire avec sa petite amie âgée de 23 ans également et ses deux parents, mais des incohérences dans les récits et les emplois du temps avaient encouragé les enquêteurs à changer de braquet. Tous les 4 sont en garde à vue, lui pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, ses 3 proches pour non-dénonciation de crime. Les parents d'Owen habitent à 400 mètres de ceux de Louise. Le jeune homme est décrit comme accro aux jeux vidéo. Il est connu de la police pour des affaires de vol et de violence. Seul mystère pour le moment, la doudoune noire du meurtrier présumé. Impossible pour les enquêteurs de mettre la main dessus. Le procureur donnera une conférence de presse demain à l'issue des 48 heures de garde à vue du suspect. Il pourrait être ensuite mis en examen et présenté à un juge d'instruction. Il statuera sur son possible placement en détention.
L'actualité judiciaire, c'est aussi le deuxième jour du procès du tueur de la basilique de Nice. En octobre 2020, il avait froidement poignardé à mort 3 personnes. Ce Tunisien de 25 ans, arrivé illégalement en France quelques jours avant son geste meurtrier, continue à affirmer qu'il ne se souvient de rien, mais les experts estiment qu'il n'est pas atteint de troubles de la mémoire. S'il affirme ne se souvenir de rien, il a toutefois déclaré que toutes les cibles étaient légitimes quand il s'agit de défendre sa mère, sa sœur, sa terre. Fin de citation. Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle s'est refermé un peu en demi-teinte. 58 pays seulement ont signé la déclaration finale, mais ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne. Après les 109 milliards d'investissements annoncés par Emmanuel Macron, c'est l'Europe qui s'engage. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un investissement de 200 milliards d'euros. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Pour la présidente de la Commission européenne, cet investissement sera le plus grand partenariat public-privé dans le monde pour le développement d'une IA fiable. Le point de départ, c'est cette alliance qui va regrouper plus de 60 entreprises européennes comme Airbus, L'Oréal, Mercedes, Spotify et bien sûr Mistral AI, le grand gagnant d'ailleurs de ce sommet parisien qui a multiplié les partenariats de haut niveau. Alors pour arriver à ce chiffre de 200 milliards, il y aura 50 milliards venant directement de l'Union européenne. Le reste sera investi par ces grandes entreprises qui forment cette coalition, objectif rivalisé avec les États-Unis et la Chine. Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs profité de son passage à Paris pour rappeler le leadership de son pays sur l'IA. Il a regretté la régulation excessive selon lui en Europe et n'a pas signé la déclaration commune issue de ce sommet qui appelle à une coordination renforcée entre tous les pays pour la gouvernance de l'IA. Un texte qui a en revanche été signé par la Chine et l'Inde. Le prochain pays organisateur du sommet mondial sur l'intelligence artificielle.
Dans l'actualité à l'étranger, en bref, un coup de filet comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans les rangs de la mafia. 147 membres de Cosa Nostra ont été interpellés dans une vaste opération de police menée en Sicile, mais aussi en d'autres endroits d'Italie. Les personnes interpellées sont soupçonnées de tentatives d'homicide, de trafic de drogue ou encore de paris clandestins. Et puis le Hamas dit vouloir tenir à l'accord de cessez-le-feu avec Israël, même si les relations se sont tendues ces derniers jours. Les nouvelles libérations d'otages qui étaient prévues ont été décalées de quelques jours. Il est midi. Dans un instant, on se retrouve pour refermer ce journal avec l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Tanéo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site tanéo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
Tricodex s'engage à vos côtés. 40% des déchets plastiques sont des déchets à usage unique. En 2040, leur production devrait doubler. Pour protéger notre île, la province sud a réglementé la nouvelle filière REP de collecte et traitement des déchets d'emballage. Tricodex et ses producteurs adhérents se mettent en ordre de marche pour le lancement de la filière. Entreprises, consommateurs, ensemble, agissons. Pour plus d'informations, Tricodex au numéro vert 05 28 28 ou sur tricodex.nc.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La page sport, on retrouve Jean-François Baudin.
Allez, on va commencer cette page sport avec du football. Lionel Sabot, on jouait ce matin les premiers barrages de la Ligue des Champions. Quatre matchs étaient au programme, dont une rencontre 100% française entre Brest et Paris.
Oui, après une superbe campagne européenne, Brest, le petit poucet de cette Ligue des Champions, ne verra sans doute pas les huitièmes de finale de la compétition. Les Bretons n'ont rien pu faire ce matin face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a le vent en poupe depuis quelques semaines. Le PSG intraitable qui s'est imposé 3-0 avec encore un doublé d'Ousmane Mbélé et un but de Vitinha. Sans faire injure aux joueurs du Stade Brestois, qui encore une fois auront vécu une campagne européenne fantastique, on voit mal comment les Bretons pourraient aller l'emporter 4-0 au Parc des Princes la semaine prochaine. Cela dit, le Paris Saint-Germain ces dernières années a été victime de quelques remontadas qui font aujourd'hui partie de l'histoire du football. Dans les autres rencontres de la matinée, il y avait un choc entre Manchester City et le Real Madrid et au terme d'un match complètement dingue, ce sont les Madrilènes qui sortent vainqueurs de ce premier acte de cette double confrontation au sommet. Menés au score à deux reprises, les Madrilènes ont tout de même réussi à s'imposer sur la pelouse des Citizens. Victoire 3-2 du Real grâce à un but inscrit par Bellingham dans les arrêts de jeu de la rencontre. But de la victoire, bien évidemment. Le match retour à Madrid s'annonce passionnant. Pour le reste, la Juventus de Turin s'est imposée 2-1 sur le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund a pris une belle option sur les huitièmes de finale en s'imposant 3-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Suite de ces barrages demain matin pour nous, nous suivrons tout particulièrement la rencontre entre Monaco et le Benfica Lisbonne. À suivre encore le club de Bruges face à l'Atalanta Bergame. Le Feyenoord Rotterdam recevra le Milan AC et le Celtic Glasgow rencontrera le Bayern de Munich.
Et on termine avec un mot de tennis et une hécatombe côté français au tournoi ATP 250 de Marseille.
Oui, écoutez bien, ils étaient 6 engagés pour ce premier tour sur les courts de la cité phocéenne. Il n'en reste qu'un, Lucas Van Hage, qui a décroché sa qualification devant un autre Français, Benjamin Bonzi, c'est plus simple comme ça. Score final 3-6, 6-3, 7-6. Pour le reste, élimination de Richard Gasquet par le Kazakh Bulbik, 6-4, 6-4. Manuel Guignard s'est incliné devant l'Allemand Stumpf, 7-5, 7-6. Clément Schidek s'est incliné en 2-7, 6-4, 6-4 devant le Belge Zizou Bergs. Enfin, élimination de Quentin Alice, battu en 3-7, 6-3, 7-6 et 7-6 par le Chinois Zong.
Midi 3, Infomax se poursuit jusqu'à 13h évidemment avec Thierry. Je vous souhaite une belle après-midi. 13h, je vous le rappelle, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.